Café de presse.
Bonjour à tous, merci d'être venus. C'est dans les cadres de ce programme organisé par Internews. Internews qui est cette ONG américaine qui est spécialisée dans la promotion et le développement de médias dans le monde. Et ici, Internews organise plusieurs activités et parmi ces activités, il y a notamment cette activité qu'on appelle au Café Presse qui est en fait une rencontre qui permet de discuter autour de certaines problématiques en lien avec la société civile, le média, le journaliste. Donc pour ces numéros du Café Presse, dans les cadres de la célébration de la journée sur la liberté de la presse, nous allons donc recevoir pour vous le président de du CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, M. Tito Ndombi, ici présent, M. Israël Moutala, qui est le président de l'Association des médias d'information en ligne de la RDC, Mille RDC. Et pour représenter justement les côtés plus académiques de la chose, nous avons M. Obulokwes, qui est chef des travaux à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, mais également qui est membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui participe dans toutes les discussions que nous avons régulièrement dans les cadres de la promotion de la liberté de la presse, mais aussi de la viabilité de médias. Pour cette session d'échange, nous allons essentiellement parler de l'information pendant la période électorale, mais aussi et surtout de la question tout ce qui concerne en fait fake news, tout ce qui concerne désinformation, puisqu'à côté de l'information, il y a un processus. À côté de la désinformation, mais également, c'est un processus que certaines personnes mettent en place pour justement arriver à pouvoir limiter la circulation de l'information, de la bonne information, de l'information de qualité et qui permet d'aller vers la construction de notre démocratie. Alors là. Première question aujourd'hui, c'est pour le président du CESAC, quand on parle de la désinformation, qui sont les acteurs, qui peuvent être les acteurs de la désinformation?
Qui peuvent être les acteurs de la désinformation? Je peux simplement répondre que c'est ceux qui ont intérêt à désinformer.
Ça peut être qui?
Ça peut être qui? Quand on parle, par exemple, si on évoque la période électorale, il y a des acteurs politiques qui cherchent à désinformer, à manipuler, donner peut-être une mauvaise information de l'adversaire. Mais aussi, la presse aujourd'hui, beaucoup de médias, je dirais, sont des médias d'influence. Cela veut dire que ce sont des médias qui sont manipulés par certains acteurs et généralement des acteurs politiques, surtout puisqu'on parle un peu des périodes électorales, qui sont utilisés en fait pour désinformer, donner une mauvaise information contre les adversaires. Je crois qu'en gros, c'est ça à mon avis.
Alors, il y a également une autre catégorie d'acteurs qu'on peut retrouver également parmi les institutions. Est-ce qu'on peut retrouver, comme en France, j'avais suivi à un moment donné, on parlait de l'État comme vecteur, comme acteur dans la fabrication de la désinformation pour désorienter ou pour une autre, pour un but?
Oui, bien sûr, mais l'État aussi, l'État peut aussi faire de la désinformation. Alors, imaginez-vous, bon, la période que nous venons de passer là. On était dans un processus électoral. Cela veut dire qu'il y en a, pour être réélu, devait présenter un budget, un bilan, devait présenter un bilan. Il pouvait aussi désinformer, donner des fausses informations et faire croire qu'ils avaient un bilan positif, alors que peut-être tout le monde peut avoir constaté qu'il n'y a presque rien qui a réussi. Donc, ils peuvent désinformer dans l'intention de donner d'eux une meilleure image, une image de réussite, d'un bilan positif pour pouvoir être réélu. Oui, les pouvoirs publics peuvent aussi désinformer dans leur intérêt.
Alors, la deuxième question, ça sera pour Obul. En tant qu'observateur du système de communication de la RDC, particulièrement pendant la période électorale, qu'est-ce que vous avez, vous, remarqué en tant qu'enseignant, mais en tant que régulateur aussi, mais aussi en tant qu'observateur?
Je voudrais d'abord ajouter à ce que a dit le président Tchessak tout à l'heure, que la désinformation est d'ailleurs au départ un fait d'État. Si les personnes privées ont récupéré la désinformation comme technique pour pouvoir vaincre l'ennemi, au départ, c'est un fait d'État. Et en deux minutes, je vais vous expliquer, ça commence. D'ailleurs, depuis la Grèce antique, le cheval de Troie, quand on en parle, c'est un fruit de la désinformation. Le cheval de Troie, c'est de la désinformation. On a amené aux gens un cheval qui était piégé à l'intérieur, mais autour du cheval a circulé des informations selon lesquelles c'est votre salut. Ce cheval-là, c'est le symbole de la malédiction de vos ennemis. Ça veut dire, si vous acceptez ce cheval-là, votre ennemi sera maudit, ne pourra pas vous battre. Et les Troyens eux-mêmes ont fait entrer le cheval dans leur propre ville. Ils ont contribué à faire entrer le cheval dans leur ville parce qu'ils pensaient qu'effectivement l'information qu'ils avaient reçue allait leur permettre de gagner la guerre. C'était une erreur. Donc, quand on parle de cheval de Troie, c'est l'exemple mondialement reconnu comme étant l'exemple de désinformation. Puis, après ça, le KGB, donc le service secret russe, a toute une section chargée de désinformation, la section A. Son travail, c'est désinformer. Autrement, faire en sorte de donner des informations qui sont invraisemblables, n'est-ce pas, auprès de l'ennemi, pour que l'ennemi puisse lui accorder du crédit. Mais cela affaiblit l'ennemi. Et donc, la désinformation est essentiellement, avant tout, un fait de ceux qui ont la puissance, parce qu'ils peuvent fabriquer, n'est-ce pas? On peut fabriquer avec des moyens qui conviennent une information et faire qu'elle soit vraisemblable. Alors, pour revenir au contexte électoral, en tant qu'observateur de la vie, en tant qu'acteur aussi, parce que ayant été effectivement au cœur de la régulation dans une des provinces ici, on peut constater que finalement, c'est comme si le public lui-même, l'opinion publique elle-même, était un des acteurs principaux de la désinformation. En fait, les gens aiment entendre qu'on leur dise ce genre de choses. Parce qu'au sein de l'opinion, ce que nous considérons nous comme étant des informations, ou vous et moi comme des informations, pour une partie de l'opinion, c'est une bonne information qui leur sert. Surtout en cas d'altérité politique, là où il y a des adversaires politiques, c'est que moi je peux causer comme étant une désinformation, parce que moi, ça ne me donne pas l'information. Dans l'autre camp, c'est ça la bonne information. Et tant que ça peut servir de pouvoir vaincre l'ennemi, il n'y a pas de problème, ou l'adversaire. Donc je peux dire que la désinformation, c'est vraiment à la limite, c'est nous qui la qualifions de quelque chose de pernicieux. Mais au sein de l'opinion publique, souvent on est divisé. Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que ce n'est pas une bonne pratique? Je crois que le panel va peut-être permettre d'approfondir la question.
Mais pour embrayer justement dans le même sens, mais comment les systèmes, comment l'État ou les pouvoirs politiques, les pouvoirs d'État s'organisent pour désinformer dans un but précis, arrivent également au travers du système démocratique à mettre en place un système qui permette à l'information de qualité d'émerger?
En fait, l'État a une double mission. C'est celle de protéger l'intérieur, mais c'est celle également de se protéger face à l'extérieur. À l'interne, l'État donne les mécanismes, par exemple les organes de régulation, qui ont pour but de veiller à ce que l'information que l'on donne soit une information de qualité, surtout une information de qualité à l'intention des citoyens. Mais l'État a aussi le devoir de se protéger par rapport à l'extérieur. Et cela fait que l'État peut utiliser des moyens, je dis vraiment, légaux, mais pas honnêtes, pour pouvoir donner d'elle ou de lui, vas-y de l'État, une image qui n'est pas celle-là. Vous avez des exemples, non? Des États comme le Rwanda. Le Rwanda se donne de lui-même une image extérieure qui ne concorde pas nécessairement avec l'image intérieur, avec la réalité. C'est de la désinformation qui est totalement arrangée, totalement fabriquée par les moyens de l'État, des moyens puissants de l'État. L'État met en branle des moyens tout à fait puissants pour se donner une image extérieure qui ne concorde pas avec la réalité intérieure. Et même à l'intérieur, l'État manipule. Le président a dit tout à l'heure, l'État s'arrange pour faire en sorte que l'on constate que notre gouvernement travaille bien. Notre gouvernement a augmenté le salaire des gens de 40 000 francs, alors que si ça devait être fait de manière correcte, les gens auraient gagné 120 000 francs à la même période. Mais avec 40 000 francs, on monte, parce que c'est un montage, on monte une opinion pour montrer qu'on fait déjà bien ce qu'on fait. Et donc l'État a tout intérêt à mentir, mais en faire en sorte que les autres ne le mentent pas. Et pour que les autres ne le mentent pas, il met en place des organes, comme l'organe de régulation, qui a pour but de faire en sorte que l'information qui vient des autres soit une information correcte, pour que l'État ne soit pas menti. Mais l'État, lui, il peut mentir aux autres pour ses propres intérêts ou pour se consolider.
La prochaine question, c'est pour le président Israël Moutala. 21e siècle, siècle de vitesse, siècle d'Internet également, mais également de fake news, des informations. On provient de plusieurs partis, on va dire. Que ce soit des hommes politiques, que ce soit des partis politiques, que ce soit même des médias, comme médias d'influence, comme l'a dit le président Tito. Mais comment vous, en tant que association de médias d'information en ligne, arriver à faire promouvoir une information de qualité dans un contexte, on va dire, prédestiné à recevoir la désinformation?
Merci de la question. Sur la question de la désinformation en rapport avec les médias d'information en ligne, j'aimerais d'abord préciser deux choses. La désinformation, c'est quelque chose de capital, parce que les États l'utilisent comme arme de conquête, arme d'influence. Nous partons de l'hypothèse selon laquelle que pour agir, pour poser un acte, il faut d'abord disposer des informations de qualité. Donc, tu inscris ton élève ou ton enfant dans une école X, c'est parce que tu as des informations préalables par rapport à l'enseignement que cette école là-bas délivre. Tu vas attaquer un pays X, il faut que tu disposes des informations sur l'armement de l'adversaire. Donc avoir l'information, c'est avoir le pouvoir. Et donc quand vous donnez à vos adversaires, quand vous donnez à vos ennemis une mauvaise information par la désinformation, vous avez un avantage certain sur eux parce qu'ils prennent des décisions en fonction des mauvaises informations qu'ils ont, et donc ça vous permet justement de les battre.
Alors,
et donc
la question précise maintenant, c'est maintenant dans un contexte qui est organisé pour influencer. Absolument. Comment vous en tant qu'association, vous en tant qu'entité, vous arrivez justement à pouvoir outiller le public, la population, à pouvoir démêler l'information et la désinformation pour justement avoir la meilleure perception possible, la meilleure arme possible qui permettrait de faire le choix quand il s'agira justement de faire le choix, comme on parle d'élection par exemple.
C'est une question importante. Le problème, c'est que pour se prémunir contre justement la désinformation, les journalistes, par ce temps où les flots d'informations circulent à une très grande vitesse. Nous, en tant qu'association de médias d'information en ligne, nous préconisons un traitement rigoureux de l'information. Parce que quand vous récoltez cette somme d'éléments, cette masse d'informations, il faut que ça passe par un traitement rigoureux de l'information. Donc, il faut être sûr de la source, vérifier, n'est pas s'isoler, parce que nous sommes dans une rédaction, il faut que ça soit traité dans une chaîne rédactionnelle, mais il faut absolument se prémunir de tous les pratiques journalistiques. Donc nous mettons un accent particulier sur le traitement. Mais le traitement, il s'est fait avec quels instruments? Il s'est fait notamment avec d'abord un engagement préalable de ce qu'on appelle ici le code de déontologie. Il faut absolument que les journalistes qui travaillent dans notre secteur puissent prendre un engagement ferme à respecter le code de déontologie et tout ça. Le professeur Obou l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait aussi des organes de régulation comme le CESAC. Pour nous, en tant que médias d'information en ligne, nous travaillons en parfaite collaboration avec le CESA qui est notre régulateur. Donc, c'est tout ça pour justement prévenir les dérapages, parce que le CESAC a aussi une mission pédagogique. Quand un média commence à déraper, il y a des séances d'abord pour le conscientiser. Mais au-delà de tout, il faut d'abord que aussi que les journalistes respectent les textes qui nous régissent en tant que journalistes, en tant que professionnels de la presse. Nous insistons beaucoup pour que le patron de la rédaction des médias d'information en ligne détienne la carte de presse de l'UNPC, qui est jusque-là le seul, la seule institution habilitée à conférer la qualité de journaliste. Donc, il y a une série de précautions que nous prenons pour justement faire en sorte que de se prémunir contre les fake news. Il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect, il y a des outils pour vérifier les fake news, c'est des outils aussi en rapport avec les sources d'information. Si ce sont par exemple les réseaux sociaux, Twitter ou Facebook, c'est vérifier d'abord si un compte est certifié ou pas. C'est aussi beaucoup d'outils qui peuvent dater une photo, dater une vidéo, montrer les incohérences d'une photo. Bref, il y a beaucoup d'outils que nous mettons à la disposition de membres de notre association en rapport avec justement la vérification des faits. Parce que en tant que média d'information en ligne, notre ou de média tout court, la crédibilité, c'est de donner des informations vraies et vérifiables. Mais par rapport à ça, il y a aussi un autre travail, justement, que le journaliste doit faire sur lui-même. Il doit avoir une éthique certaine, ça veut dire que éviter les partis pris systématiques. Il doit aussi trouver un équilibre entre son organe de presse. Si son organe de presse est arrimé à certaines forces politiques, c'est de faire en sorte de trouver un équilibre entre l'influence de ces forces politiques qui détiennent le média dans lequel il travaille et lui-même. Donc, il y a beaucoup d'astuces pour justement éviter les fake news.
Merci beaucoup. La prochaine question, ce sera pour le président Tito. Est-ce que, finalement, vous avez le moyen qu'il faut pour mener à bien cette mission, qu'il faut le dire, dans un système, comme vous l'avez dit, organisé pour recevoir des informations, enfin la désinformation, dans un contexte fortement politisé où les médias appartiennent soit aux hommes politiques, soit aux hommes d'église? Comment vous, en tant que régulateur, vous arrivez justement à... Vous avez publié un rapport très récemment sur votre observation et sur ce que vous avez fait. Est-ce que vous avez des moyens pour arriver à mener à bien cette mission?
Bon, le moyen, je ne dirais pas, parce que, en fait, le moyen qui pouvait être un moyen efficace pour lutter contre la désinformation, mauvaise information, fausse information, ça devait être la loi. Mais nous sommes à l'époque des réseaux sociaux aujourd'hui. Et il n'existe aucune loi pour réguler Internet ici chez nous. Et la grande difficulté aussi pour la régulation, c'est quoi? La régulation se fait a posteriori. Cela veut dire qu'il faut constater d'abord les dérives, il faut constater les fautes et tout ça, et à la rigueur sanctionner. Et même s'il faut sanctionner, on ne peut sanctionner que les médias traditionnels, la presse écrite, la télévision, la radio et maintenant les médias en ligne. Mais les réseaux sociaux, on ne peut rien contre eux. Donc c'est a posteriori. Mais nous, le plus important, c'est, je crois que c'est de jouer un peu plus dans la prévention. Mais dans la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pourquoi nous insistons toujours sur le travail du journaliste. Parce que nous estimons que, et ça nous le répétons régulièrement, le premier rempart contre les fake news. Parce que vous savez, en période électorale, parce que moi j'insiste sur les élections, mais quelqu'un qui est promis à une victoire peut échouer tout simplement à cause des fake news. On peut briser la carrière d'une personne parce qu'on a diffusé de fausses informations sur lui. Alors nous, on essaie de prévenir. Nous disons que le premier rempart, c'est le journaliste. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'aujourd'hui, bon, les outils de désinformation, les outils de fake news, c'est à la portée de tout le monde. N'importe qui peut manipuler l'information aujourd'hui. Il peut fabriquer l'information aujourd'hui. Alors, n'importe qui. Alors, maintenant, il n'y a que les journalistes. Et nous, donc notre vigilance, c'est sur les journalistes. Nous insistons pour que le journaliste soit là pour venir donner la vraie information. Parce qu'il y a un travail à faire. Ce travail, c'est quoi? C'est comme disait Israël tout à l'heure. Un journaliste n'est pas n'importe qui. C'est un professionnel, c'est quelqu'un qui est formé, il connaît les principes, il connaît les règles de la profession. Cela veut dire qu'il ne peut pas diffuser n'importe quelle information. Même si cette information a été diffusée par certains médias, aucun média n'est à l'abri hein, de fausses informations. Aucun média. On a vu même dans des pays de grandes démocraties, des grands médias, des médias importants qui ont diffusé des fausses informations. Donc, il faut pouvoir, comme il a dit, vérifier. Mais comme il dit, il ne faut pas le faire en vase clos. Il faut même s'organiser. Moi, je vois maintenant, il y a plusieurs en France, par exemple, il y a plusieurs rédactions qui sont organisées. Le Monde, Libération, tout ça. Ils ont constitué tout un groupe. Rien que pour vérifier, pour lutter contre les fake news. Une grande information tombe. Non, ne succombez pas à la tentation, je ne sais pas, du scoop. Prenez le temps de vérifier. En groupe, on vérifie. Est-ce que cette information peut être vraie? Parce que nous, c'est tous les jours qu'on voit.
Ouais, mais...
Ah non, le Premier ministre a démissionné.
Je me permets
mais,
de...
Mais il y en a qui n'hésitent pas à relayer. Ouais. Tout de suite, les médias relayent ça sans pouvoir...
Mais Président, vous avez dit que la plupart de nos médias, c'est essentiellement des médias qui sont des médias qui orientent. Des médias qui
pas essentiellement, parce qu'on dit essentiellement même tous les médias, alors il faut...
Voilà.
Beaucoup, en tout cas la plupart, disons la plupart.
La plupart de ces médias.
Ce sont des médias qui essaient d'influencer, oui.
Mais qui essaient d'influencer. Oui. Sachant que ces médias appartiennent aux hommes politiques. Sachant que ces médias-là peuvent justement décider, après que le journaliste ait fait bien son travail, recouper et ainsi de suite, mais les médias décident de désinformer. Oui. Mais finalement, vous ne faites pas fausse route en vous spécialisant ou en vous attaquant ou sur les journalistes au lieu justement d'aller vers les promoteurs, les gens qui ont le pouvoir.
Je disais ceci. Je dis que le premier rempart, c'est les journalistes qui est censé donner la vraie, la vraie. Mais sur ce point-là, je crois qu'il y a des initiatives qu'on peut promouvoir. Des initiatives dans quel sens? Initiatives pour une bonne information. Cela veut dire que on peut s'entendre sur les normes à promouvoir. Et voici les standards. Il faut. Et ça, on travaille avec les médias. Qu'est-ce qu'il faut pour les médias? Ils doivent. On sélectionne un certain nombre de médias dont vraiment l'indépendance éditoriale est assurée, qui travaillent selon les principes, les règles de la profession, qui respectent les codes d'éthique et de déontologie. Et ces médias-là devaient être certifiés et dans la mesure du possible être récompensés. Être récompensés. Comment est-ce qu'on peut le faire concrètement? Cela veut dire qu'on peut travailler, on peut créer des groupes, des associations. On regroupe les médias, les régulateurs, l'autorégulation, les syndicats des journalistes, les annonceurs et tout ça, on dit que voici, ici par exemple à Kinshasa au Congo, voici les médias certifiés qui font un bon travail. Il faut qu'on dise que non, vous savez, le Premier ministre a démissionné. Ah, vous avez appris ça où? Non, j'ai lu sur... Bon, je vais dire autre chose.
Parce
que
c'est
pas la publicité. Okay. Bon, j'ai dit 7 sur 7 par voilà. exemple, je ne veux pas dire ça.
Voilà.
7 sur 7. Et tu vois, il y a un label, on sait que non, 7... ah oui, ça c'est vrai, tu vois. Alors, il faut qu'on arrive à faire ça, de sorte qu'il y ait un plaidoyer, ces genres d'initiatives, ces genres de groupes font un plaidoyer, pour dire même aux annonceurs que voici les médias crédibles, voici les médias, il faut même faire de la sensibilisation et former les gens pour dire que si vous voulez avoir une bonne information, il faut lire tel média, il faut suivre telle chaîne de télévision, il faut écouter telle station. Il faut qu'on arrive à ça. Et même orienter les annonceurs vers ces stations-là.
Ça,
ensuite, je voulais terminer. Ensuite, nous, en tant que, institution publique, faire en sorte aussi que, bon, il est prévu par la loi, l'aide publique à la presse soit orientée vers ces médias-là qui donnent de l'information fiable. Et je crois que petit à petit, ça peut s'estomper, on peut aussi amener...
Alors, l'autre question, ce sera pour le chef de travaux au Boule. Vous êtes parmi les pourvoyeurs. Chaque année, vous mettez sur le marché de l'emploi des journalistes. IFASIC est le premier ou la première institution qui forme. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire qu'en termes de formation, que nous sommes prêts à pouvoir déconstruire la mauvaise information pour donner la bonne information dans un contexte qui permette justement que l'on sache finalement que quand un journaliste vient de l'IFASIC, il y a vraiment une différence avec un journaliste qui apprend sur l'État et un journaliste qui sait, parce que finalement, tout le monde aujourd'hui a la possibilité de diffuser ce qu'on a dit, tout le monde a la possibilité. Quel est le plus qu'on peut aujourd'hui avoir quand on recrute un journaliste qui sort de vos institutions?
Et il n'y a aucune école au monde qui ne peut donner tout à ceux qu'ils forment. Aucune école de journalisme au monde n'apprend aux gens à pouvoir détecter la désinformation. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais on nous apprend à tous le béaba de ce métier. Et chaque fois, il faut rappeler aux gens. C'est la première réponse. La deuxième chose, c'est que le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui demande à chacun qui travaille chaque fois de faire un réajustement, à changer chaque fois sa manière de travailler pour s'adapter au terrain. Pourquoi je le dis? Parce que regardez, quand on parle de désinformation, nous avons l'impression que c'est quelque chose que tout le monde peut fabriquer. Non. La désinformation ne tient pas seulement à l'intellect. La désinformation ne tient pas à la qualité du renseignement seulement. Non. La désinformation vise l'émotivité des gens. La désinformation rend une information plus ou moins vraisemblable, mais c'est sur le plan émotionnel surtout que les gens se font avoir. En se disant, puisque c'est comme ceci, ça ne peut qu'être vraisemblable. On fait tout pour mettre toutes les qualités, et c'est des personnes intelligentes qui le font. Pourquoi? Parce que si vous faites de la mauvaise désinformation, ça veut dire tout de suite ça va sauter aux yeux. On va dire, ça c'est un sacré montage. Exemple, je vais le donner avec le courage que je peux avoir. Jean-Marie Kassamba ferme sa télévision pendant une semaine, les gens n'entrent pas pendant 5 jours. Et puis 5 jours après, il dit que ces gens sont entrés, ils ont renforcé les caméras. Voici un exemple d'un fox. C'est de la désinformation totale. Comment ces gens-là qui ne sont pas entrés au bureau depuis 5 jours, pouvaient-ils entrer pour renverser les caméras? Une caméra qui est sur le pied, on le renverse juste, on tourne le pied, la caméra n'est pas cassée. Il ne faut quand même pas nous prendre pour des bébés. C'est du montage, c'est cela. Et les personnes qui font ce type de montage, lorsqu'elles n'ont pas suffisamment d'intelligence, il y a moyen pour un journaliste professionnel. N'importe quel journaliste qui est dans cette salle peut détecter la désinformation. Et voici l'astuce, c'est une nouvelle technique. Israël et moi sommes dans un groupe qui s'appelle fact-checking, qui est aujourd'hui enseigné dans les grandes universités. Ça veut dire la vérification de l'information publique. Contrairement au journalisme d'investigation, où vous cherchez des informations qui sont cachées. Ici, il s'agit de vérifier des informations qui existent, qui sont même publiées par des médias sérieux. Vous vous dites que je vais la publier, mais avant de la publier, je vais soumettre cette information à une vérification préalable qui peut vous faire détecter qu'à tel ou à tel autre endroit, il y a des choses qui ne tiennent pas debout. Il y a des choses qui sont invraisemblables. Et c'est tout. Donc c'est le recoupement de l'information. C'est le sérieux du journaliste. Le grand problème de la désinformation, ce n'est plus le journaliste même. Parce que le journaliste, parfois, on vient prendre ses services pour fabriquer l'information. Et il est tellement professionnel qu'il le fait bien. Le plus grand problème de la désinformation, patient, c'est le public. C'est l'opinion publique, je vous ai dit. Le public, dans la plupart des cas, participe de manière peut-être inconsciente. Parce que la désinformation tient compte de quoi? De votre paresse intellectuelle. Vous n'allez pas chercher des preuves parce que c'est actualité.cd et 7 qui ont publié. Ok, tout est bon. Mais non. Quelles sont les personnes qui sont derrière? Quels sont les intérêts qui sont derrière ce type d'information? Surtout en temps électoral. Tout le monde veut être élu, mais ils vont utiliser tous les moyens qui sont à leur possession. Et malheureusement, nous, nos médias, n'ayant pas assez de moyens pour aller vérifier une information qui a par exemple été donnée par la DGI, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dire, comme c'est elle qui est allée là-bas, comme c'est le directeur DGI qui a donné prétendument l'information, c'est que l'information doit être vraie et que non, il faut aller jusqu'au fond, jusqu'au bout et ne pas avoir la paresse intellectuelle d'accepter tout ce qu'on vous a donné comme étant une donnée naturelle, faire le fact-checking, aller au-delà pour voir si dans l'information qu'on vous a donnée, il n'y a pas des choses qui sont invraisemblables. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'il est, on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il ressemble à son fils. C'est totalement illogique. Mais chez nous, on peut, hein, fabriquer, dire non, non, vraiment, celui-là, il ressemble textuellement à son fils. Et les gens disent, ah oui, il est beau parce qu'il ressemble à son fils. Mais c'est illogique. C'est son fils qui peut lui ressembler. Donc, quand on voit ce genre de choses, déjà, on peut se dire que l'information, là, peut poser des petits problèmes.
Sur le plan concret, aujourd'hui, est-ce que vos institutions de formation sont prêtes, justement, avec des modules de fact-checking?
Ben oui, ça existe aujourd'hui à travers beaucoup d'institutions supérieures. Le fact-checking est déjà enseigné. Chez nous, le programme, il est lourd, mais je peux vous garantir que nous, qui avons la possibilité d'encadrer directement les étudiants, on le leur dit. S'il y en a qui sont dans cette salle, qui vont faire le stage là où je suis, dans leur programmation, il est prévu qu'ils fassent 2 semaines d'apprentissage de fact-checking avec des travaux de terrain. C'est de nouvelles techniques qui arrivent et qu'on peut donner. Ce n'est pas un cours magistral qu'on donne, ce n'est pas ça. C'est juste leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour vérifier l'information. Et avec les travaux de terrain, tous les professionnels qui sont ici, en 4-5 jours, ils ont appris ce B.A.B.A. C'est vraiment le B.A.B.A. quoi. Et donc, ce n'est pas difficile. Il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut plutôt qu'on s'adapte à l'évolution des terrains, à l'évolution des nouvelles techniques, à l'évolution de la circulation de l'information, qui aujourd'hui ne circule pas comme hier. Hier, il fallait attendre que les médias officiels ou les autres donnent l'information. Aujourd'hui, personne n'attend. Dès qu'il y a un événement quelque part, d'ailleurs, nous l'apprenons plus par d'autres voies que par nous-mêmes. Et nous, qu'est-ce que nous faisons, nous les journalistes? Nous y mettons la forme journalistique qu'on nous a apprise. Mais l'information, elle est déjà connue. Déjà connue. Chacun sur Facebook, déjà, l'information est déjà connue. Tel a fait ceci, tel jour, à telle heure. Mais les gens attendent de nous que nous puissions donner la forme journalistique. Ça veut dire qu'on leur donne, qu'on donne une information qui soit plus crédible que ce qu'ils savent déjà. Donc ce n'est plus un problème de renseignement, ce n'est plus un problème de connaissance. Maintenant, c'est un problème de sérieux et un problème de l'émotivité. Qu'est-ce que l'information nous apporte comme émotion? Qu'est-ce que l'information nous apporte comme satisfaction? Est-ce qu'elle est bien faite ou non? Mais le renseignement comme tel, on l'a à la 642, n'importe qui se trouve sur le boulevard, filme, montre à tout le monde sur son WhatsApp, sur son Facebook. Les gens sont déjà au courant que tel Amataki Nampunda à tel endroit. Mais maintenant, nous, ce qu'on attend de nous, c'est ce sérieux-là que les autres n'ont pas.
Café, café,
merci beaucoup. On va passer à la deuxième étape de cette session. C'est justement l'étape où vous avez la parole et donc vous avez la possibilité de profiter de ces panels avec le professeur, les enseignants, les régulateurs, également le professionnel de médias. Question, j'en prends d'abord par ces rangées, et ensuite l'autre rangée, et après on fait le tour.
Excusez-moi, c'est Canal Congo Télévision. J'ai deux petites questions. La première, elle va droit au président Tito. Permettez-moi que je l'appelle président. La rigueur ou la sévérité avec laquelle on traite le média en ligne n'est pas la même qu'on traite le média audiovisuel. Apparemment, il y a un peu plus de laisser-aller dans votre manière de regarder l'information dans le média en ligne. Pardon? Oui, c'était d'abord l'observation, on va te poser la question. Oui, donc je suis en train de me dire qu'est-ce qui justifie cette petite légèreté. Alors, deuxième question est, qu'est-ce que, en vertu de votre pouvoir, en tant que CESAC, organe de régulation de médias, initier une certaine loi pour réglementer les réseaux sociaux? Est-ce que vous en avez déjà pensé, même dans l'initiative?
Jean-Pierre, pour RTGA. Une question d'abord au président de MILRDC. Vous dites que pour mesurer le sérieux du journaliste, il doit d'abord avoir une carte de presse. Est-ce ça la condition sine qua non? On sait comment les cartes se donnent actuellement. Je connais des gars, ils sont en l'IFASIC, ils foutent rien, ils écrivent des conneries sur Facebook, ils ont des cartes. J'en connais même qui se donnent la nuit à 5 dollars. Alors, quand on détient la carte, est-ce suffisant pour être appelé journaliste et écrire sur un site? Est-ce quand des sites membres du réseau se distinguent dans la désinformation, est-ce qu'au niveau interne, il y a par exemple des mesures disciplinaires qui sont prévues où on s'arrête à constater que cette info n'était pas correcte? J'ai vu le président du CESAC apparemment trop se plaindre, mais sans nous dire concrètement ce que exactement. C'est dans le cadre de la question posée par les collègues de France. Bon, maintenant, on sait plus ou moins surveiller les sites membres du réseau. Mais ceux qui ne sont pas membres de ces réseaux et qui nous pondent à longueur des journées de la désinformation, vous regardez, vous assistez impuissant, vous aussi comme nous, à ce qu'on nous bombarde, ou à votre niveau, vous travaillez sur comment, évidemment, arriver à déconstruire cet aspect des choses. Je souhaite m'arrêter là dans un premier temps.
C'est Edmond Izouba. Je suis journaliste à RTVS1. En même temps, je collabore à ObjectifInfo.cd. Je voulais savoir comment, surtout, je pose la question à M. Tito Ndombi, président du CESAC. Comment vous rendre indépendant si, par exemple, la désinformation est institutionnalisée? Je prends le cas du Rwanda, comme le prof Boule a expliqué tout à l'heure, sans donner trop assez de détails. Aujourd'hui, on fait le marketing sur le Rwanda. Et le marketing, il est digital. Partout où vous entrez sur YouTube, vous voyez d'abord la publicité sur le Rwanda. C'est Rwanda Visite aujourd'hui. Rwanda Visite est porté par Arsenal, qui est une très grande équipe de football. Donc, l'information, je peux même appeler ça comme ça, la désinformation au Rwanda aujourd'hui est institutionnalisée à tel point qu'on est capable de justifier qu'au Rwanda, il n'y a pas existé un génocide. Alors, dans ce cas-là, s'il arrivait, par exemple, pour la RDC, où vous avez même les documents officiels signés, autorisés même à être publiés, mais qui portent la désinformation, comment vous, CESAC, comme une institution, comment vous rendre indépendant?
Nous régulons quoi? Nous régulons le contenu des médias. Nous régulons le contenu de la télé, le contenu de la radio, des médias en ligne, de la presse écrite, comme j'ai dit ici. Mais si on prend des informations comme Oboul l'a dit, ça ne passe pas nécessairement par la RTNC, ça ne passe pas nécessairement par Antenne A ou... Donc, c'est parfois même en dehors des circuits que nous pouvons réguler et que nous ne régulons pas. Donc, ce qu'il faut, peut-être il faut créer une autre institution indépendante pour pouvoir réguler tout ce que le CESAC ne peut pas réguler.
Communication dans CESAC.
Communication.
Ouais.
En fait, CESAC, on a ajouté communication. Vous voyez, au départ, quand on crée CESA, tout ça, c'est l'audiovisuel. En fait, les instances de régulation, au départ, c'était pour réguler les médias audiovisuels. Mais vous voyez que c'est en Afrique où les gens ont voulu réguler tout, et la presse écrite. Alors, bon, il faut un terme qui englobe tout. Communication, quand on met communication, on met tout le monde là-dedans. Dans la communication, nous régulons quoi? Les médias de communication de masse. Et les textes sont clairs. Donc, nous, on ne peut pas réguler, par exemple, YouTube, par exemple. La loi ne nous donne pas ce pouvoir. On ne peut pas réguler les réseaux sociaux. Et nous, on ne va pas se mettre à réguler les réseaux sociaux parce qu'il n'y a aucun texte qui nous donne ce pouvoir. Donc, c'est en violation de la loi si on le fait. Ce qui fait que, bon, aujourd'hui, bon, mais le Rwanda, il fait tout ce qu'il fait là. Ça passe même, vous avez dit, même avec des grandes équipes, tout ça, mais qui régule ça? Ils font de la désinformation, mais... Ils payent des groupes spécialisés pour ça, des groupes de communication, ils payent, et puis ça passe. Il n'y a personne, donc. Je ne vois pas là où se pose la question de l'indépendance, parce que l'indépendance, nous avons des missions essentielles. Assurer l'accès égal aux médias publics, voir si les contenus publiés par les médias est conforme à la loi, aux règles d'éthique et de déontologie, et pas n'importe quel média, pas les réseaux sociaux. Nous, on ne régule pas Facebook, on ne régule pas Twitter. Donc ça, c'est au-delà de... à moins que on décide aujourd'hui d'accroître les pouvoirs du CESEC et tout ça, mais j'espère que
l'autre
ça...
question pour aller vers le président, c'était vous regardez les médias qui sont membres du réseau, je suppose, notamment de l'association des médias d'information en ligne. Alors tous ces autres médias qui ne sont pas identifiés et qui ne sont pas casés dans une organisation, vous constatez malheureusement comme nous.
Je ne sais pas. On peut prendre même l'exemple de la France, de la Belgique. Est-ce que le CSA, par exemple, en France, peut surveiller tous les médias en ligne? Est-ce que nous, c'est ça que nous pouvons même surveiller, ne fût-ce que les groupes de 1000 RDC? Non, ce n'est pas possible. On va le faire avec quels moyens? Mais la réalité, c'est quoi? Tout le travail de régulation qu'est fait le CSA, le CSA, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, tout le travail qu'il fait de régulation, c'est sur base des signalements. C'est pas, quand vous allez au CSA en France, ils n'ont pas un centre de monitoring comme nous avons. Nous avons un centre de monitoring qui nous permet de suivre, par exemple, les télés, les radios et tout ça. Mais eux, ils n'ont pas de centre de monitoring. C'est des signalements, c'est des plaintes. C'est des gens qui viennent se plaindre que voilà... Nous avons lu, par exemple, sur actualité.cd, telle information qui est fausse. Ce sont des gens qui lisent et qui signalent. Donc, en principe, c'est comme ça que ça devait se faire. Parce que nous, on va faire comment? 1000 RDC aujourd'hui, vous étiez à 15, maintenant c'est combien? À peu près 25 membres. Comment on va faire? Est-ce que, avec quels moyens, on va commettre 25 personnes qui suivent tous les jours un média ou non? C'est pas possible. Donc, on ne peut pas le faire. Donc, c'est un problème de signalement. On doit pouvoir, n'importe qui, n'importe quel citoyen doit pouvoir signaler à l'instance de régulation quand il y a des dérives, quand il y a des manquements que nous avons lus sur tel site, nous avons constaté qu'il y a des problèmes. À ce moment-là, nous pouvons faire des investigations, engager une procédure. Alors, vous disiez tout à l'heure que nous regardons les médias en ligne avec beaucoup de rigueur. Moins de rigueur. Avec moins de rigueur. Comparativement, mais c'est ce que je suis en train de dire, par exemple. Avec l'audiovisuel, c'est quoi? Ce qui arrive, c'est quoi? Et vous allez voir que, généralement, nous traitons des plaintes. Les gens se plaignent. Et voilà, nous avons suivi tel jour sur RTVS1, sur RTGA, nous avons suivi telle information, tel élément. Il y a des plaintes, nous sommes saisis. Et à ce moment-là, nous engageons une procédure. Mais nous avons aussi un centre de monitoring qui fonctionne. Bon, ça fonctionnait la journée, mais maintenant nous avons un matériel qui nous permet de suivre les médias 24 heures sur 24. Donc maintenant, il ne faut plus blaguer. Parce que maintenant, c'est vraiment numérique grâce à l'Union européenne et au Observatoire du Pavi. Maintenant, nous avons un équipement numérique qui nous permet de suivre les médias audiovisuels et les radios 24 heures sur 24. Maintenant, nous sommes en train de... L'observatoire est en train de former nos observateurs pour les médias en ligne. On forme pour les médias en ligne, organisés comme organes de presse, mais aussi des observateurs pour les réseaux sociaux. On ne va pas réguler, mais quand même, on va observer pour voir comment ça évolue et voir dans quelle mesure on peut faire des avis au pouvoir public pour parvenir à ce que vous avez cherché... pour voir s'il faut une loi, mais je ne sais pas si on va parvenir à cette loi-là, parce que j'ai participé à beaucoup de rencontres internationales des régulateurs sur cette affaire ici des régulations d'Internet, des régulations des réseaux sociaux, et on a été partout, pratiquement toutes les dernières rencontres, Tunisie, Suisse, Maroc et tout ça. On parle toujours de régulation des réseaux sociaux, régulation d'Internet. Mais les gens, cette loi-là, vous savez, même en parlant de fake news, vous avez vu en France, là, Macron est venu, non, il faut une loi, mais les débats étaient tels qu'on n'en parle même plus. Est-ce que cette loi-là sera efficace? Nous, il n'y a pas de loi pour réguler Internet. Mais en tant que régulateur, nous travaillons avec l'ensemble des régulateurs surtout francophone, dans le cadre de REFRAM, la réflexion est très poussée pour voir si on peut avoir une loi pour réguler les réseaux sociaux. Mais ce sera difficile comme ça. Mais la législation a des limites. Comme j'ai dit pour le régulateur, c'est a posteriori. Donc cela veut dire qu'on va les gens vont commencer vont continuer à commettre des fautes, on constate et puis après on peut sanctionner, on peut punir. Mais entre-temps, on n'empêche pas la commission des fautes. On n'empêche pas la commission des fautes. Donc la réflexion est là et je crois qu'il y a même une équipe de toujours grâce à Observatorio, on est dans la procédure de recruter un avocat, juste enfin un juriste. Un juriste n'est pas nécessairement un avocat. Un juriste qui va réfléchir pour nous et faire une recommandation pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que sinon, moi, à toutes les rencontres que j'ai participé même au niveau international, bon, la solution aujourd'hui, c'est quoi? Quand les gens commettent des fautes dans les réseaux sociaux, on dit, la seule solution, maintenant qu'il n'y a pas encore de loi, c'est la justice, hein. La personne qui se sent lésée, il va...
Et aussi le signalement, si c'est Facebook, vous signalez à Facebook.
Oui, oui. Et puis, parce que, comme la loi en Allemagne, la loi en Allemagne oblige, par exemple, Facebook et Twitter et tout ça, ils demandent de lutter contre ça. Mais bon, ce sont des intermédiaires techniques. Quand vous demandez à Facebook, à Twitter de lutter contre ça, mais c'est des intermédiaires techniques. Est-ce qu'ils peuvent juger la véracité ou la fausseté d'une information? Donc c'est
merci.
Tout ça, c'est un peu compliqué.
Merci, Président. On va donner la parole au Président Moutala et ensuite on va clôturer le professeur va prendre toutes les questions et répondre, ajouter la touche scientifique.
Jean-Pierre, merci de la question. Sur la carte de presse, pour nous, 1000 RDC d'abord, nous sommes membres de l'UNPC. Nous considérons que l'UNPC, c'est le cadre fédérateur des journalistes. C'est ce que dit la loi. La façon dont on délivre les cartes là-bas nous importe peu pour le moment. S'il faut changer la gouvernance de la délivrance de cartes, ça c'est une autre affaire. Mais la loi dit ici que la seule instance habilitée à reconnaître la qualité de l'UNPC, c'est l'UNPC qui délivre la carte. Et donc nous sommes légalistes et nous nous conformons à cette exigence-là. Voilà pourquoi que nous exigeons toujours que tout patron de la rédaction d'un média d'information en ligne détienne la carte de presse. C'est une des conditions pour adhérer à 1000 RDC. Pourquoi? Parce que souvent, quand il y a des problèmes d'atteinte aux droits de journaliste, on a besoin de cette couverture pour que déclencher la solidarité. Donc, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel de détenir la carte. Donc, il y a des gens qui détiennent la carte et qui font n'importe quoi, libre à eux. Mais pour nous, d'abord, c'est vrai, on détient la carte, mais on ne fait pas n'importe quoi. Deuxièmement, sur la question de l'autorégulation, nous avons des instances d'autorégulation, mais c'est encore difficile. Les organes de 1000 RDC d'autorégulation sont embryonnaires. Donc, pour le moment, nous avons créé un groupe WhatsApp pour essayer de sensibiliser les uns et les autres à un meilleur exercice du journalisme. Donc, nous sommes toujours encore dans la conscientisation et nous avons des organes d'autorégulation. Pour l'instant, les membres de 1000 RDC ne font pas trop de fautes. Ce sont plutôt les autres membres qui ne sont pas de 1000 RDC qui en commettent. Pas plus tard qu'hier, une autorité de la place m'a appelé. Vous êtes le président des médias d'information en ligne. J'ai une plainte contre un média d'information en ligne. Ils se rabattent souvent sur moi. Je lui ai demandé de postposer la plainte, le temps d'entreprendre une médiation. J'ai fait la médiation hier et je crois qu'elle va aboutir aujourd'hui. Et les plaintes comme ça, j'en reçois une ou trois chaque semaine. Mais les personnes qui commettent toutes ces erreurs ne sont pas des membres de 1000 RDC. Mais tout le monde, même quelqu'un qui ouvre une chaîne YouTube, qui insulte les autorités, et tout, c'est moi qu'on appelle président des médias d'information en ligne. Voilà, c'est vous. Il y a quelqu'un qui ouvre un site internet à Bukavu, à Goma, à Kananga, qui écrit n'importe quoi, c'est moi qu'on appelle. Mais toutes ces personnes ou tous ces médias ne sont pas membres de 1000 RDC et on n'a pas pris la fiche signalétique pour émettre au CESAC. Même le CESAC aussi ne les connaît pas. Parce que nous sommes volontairement identifiés auprès du CESAC. On n'a rien à cacher. On veut faire le métier de journalisme dans les règles de l'art. Mais il y a des gens qui veulent être en marge de la loi, qui veulent être en marge de la société. Et c'est à l'État de voir comment les contraindre. Donc, oui, nous avons une instance d'autorégulation, mais qui n'a pas encore tous les moyens, parce que monitorer, donner des recommandations, c'est un grand travail. Ces deux professeurs d'université, d'ailleurs, de l'IFACI, qui font office d'autorégulateurs chez nous, Axel Goncho et et Turin, notamment, qui sont chargés au niveau de la plateforme de faire ce travail d'autorégulation. Mais j'en conviens, ce n'est pas encore vraiment opérationnel.
Merci. Merci, Président. Alors, on va prendre l'enseignant, M. Oboul, qui va répondre à toutes ces questions. On va prendre la dernière série et puis on va clôturer la séance.
C'est juste un terme complémentaire à ce qu'a dit tout à l'heure le Président. C'est que il y a deux problèmes qui se posent chez nous. Le premier problème, c'est que les journalistes ne sont pas vraiment des journalistes. Beaucoup de journalistes ne sont pas vraiment des journalistes. Il est impossible qu'en France, on puisse avoir un journaliste qui est membre d'un parti politique connu, reconnu, il a sa carte, il travaille dans un organe de son parti politique qui se dit être média, mais qui est un organe du parti. Ça n'existe pas là-bas. Il ne va pas prester, quoi. On va lui dire de ne pas prester. Première chose. Deuxième chose, c'est que l'exemple du Canada montre qu'avec le Conseil des presse du Canada, c'est le métier qui s'organise à l'interne pour bloquer tout ce qui peut salir la réputation des médias. Il n'y a pas de régulation des médias sociaux dans aucun pays au monde. Mais l'exemple du Canada montre, par exemple, que vous êtes journaliste, votre page Facebook a le même nom que votre nom de journaliste et que vous y postez une information, c'est une information journalistique. Sinon, vous faites un pseudo sur votre page Facebook pour montrer qu'en ce moment-là, vous écrivez des choses qui ne sont pas liées à votre métier. De la même manière, vous les gens, vous dites que les hommes publics n'ont pas de vie privée. De la même manière, vous devez vous considérer, vous, que vous n'avez plus de vie privée lorsqu'il s'agit de l'information. Quel que soit le canal par lequel vous diffusez cette information. Pourquoi vous voulez demander à des hommes publics d'être corrects avec vous et vous, vous ne voulez pas être correct avec le grand public? Vous êtes malhonnête. Si vous voulez être honnête, vous avez une page Facebook, changez de nom, mettez un pseudo, de telle manière que ce que vous allez faire là-bas soit considéré comme étant du domaine du privé. Avec votre nom de journaliste, vous écrivez sur Facebook des informations erronées, eh bien, vous avez écrit des informations erronées.
Merci, Président. Merci.
Donc, c'est ça que le Conseil de presse du Québec a expérimenté et ça marche très bien chez eux là-bas. Il y a vraiment le respect du travail. On fait la distinction entre la vie privée et le travail public.
Merci encore. On prend
pour la question qui avait été posée à Israël pour la carte de presse là, je crois que bon, je ne voudrais pas entrer dans ces débats parce que l'UNPC n'est pas là, on peut dire que voilà, ils ont, mais c'est un problème sérieux parce qu'en fait tout ce que nous sommes en train de faire ici, de parler de, moi je vois la désinformation dans l'aspect fake news, les fausses informations qui sont un peu comme ça, diffusées comme ça, et parfois par des journalistes professionnels. Nous, la première arme, en principe, c'est l'autorégulation. Mais, M. Oboul l'a dit ici, bon, lui, il a dit, nos journalistes ne sont pas vraiment des journalistes, bon, mais nos journalistes, enfin, pour ne pas reprendre la même... C'est plus des snipers, des gens qui sont... Moi, je vois même que parmi les journalistes, il y a même des cannibales. C'est comme ça, au plus, c'est cannibale, c'est pas cannibaux. Hein. Il y a des cannibales parmi les journalistes. Apparemment, qui ont vraiment... qui veulent manger des gens, quoi. Donc, l'objectif, c'est quoi? Moi, quand j'enseigne à l'IFASIC, là, je prends un journal. Je prends un journal de presse écrite. 6 titres à la une. 6 titres. Et chaque titre porte le nom d'une personne. Vous voyez? Chaque titre, est-ce que c'est normal? Un journal qui titre seulement sur le nom des gens, tel, sur le nom des gens, est-ce que c'est normal? Donc, certains titres, c'est pour assurer la promotion, et les autres, c'est pour tuer les autres, pour manger les autres. Vous voyez? C'est ça, les journalistes. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Est-ce que l'autorégulation a la force nécessaire? Vous savez, même dans 1000 RDC là, si vous mettez la pression sur quelqu'un, il claque la porte et puis il s'en va, vous perdez son contrôle. On a vu avec l'INPCC, la commission de discipline, a radié déjà combien de gens? Est-ce que les gens radiés par la commission de discipline de l'INPC ont cessé d'exercer? Dès que vous radiez quelqu'un, dit derrière moi, je ne suis plus de de l'UNPC, je n'ai jamais pris la carte. Oui, c'est une association, une ASBL, donc ils n'ont rien à voir avec moi. C'est ça la difficulté. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut...
Et ça sera la fin. Merci infiniment au président Tito. Merci président Moutala. Merci également à monsieur Oboul pour les temps. Merci à vous tous qui êtes venus aujourd'hui. Je rappelle que le programme s'appelle le Café News, qui est organisé chaque fois par Internews, qui est une organisation spécialisée dans la promotion et le développement des médias. Et aujourd'hui, on a eu comme thème justement le journalisme par rapport aux élections en temps de désinformation. Et nous avons eu la chance d'avoir le CESAC, le MILRDC, mais aussi l'institution qui forme les journalistes, l'IFASIC. Merci à tous d'être venus.